autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. Un événement exceptionnel s'est déroulé hier soir. L'atterrissage sur Mars de la sonde InSight. Moment d'émotion très intense pour la NASA, mais aussi pour toutes les équipes internationales et notamment françaises qui ont participé à ce projet. C'était le premier engin à se poser sur Mars depuis 6 ans après le fameux robot Curiosity. Mais surtout, InSight sera la toute première station géophysique à étudier l'activité sismique d'une autre planète. Son but est d'écouter battre le cœur de Mars, ses vibrations, ses craquements, ses mouvements, les tremblements de son sol. Cela permettra de connaître la structure interne de la planète, ce qui nous renseignera aussi sur l'histoire de la Terre. Pour comprendre tous les enjeux de cet exploit historique, nous sommes avec l'astrophysicien Francis Rocard. Bienvenue.
Meters, constant velocity, 37 meters, 30 meters, 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
Francis Rocard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, responsable du programme d'exploration du système solaire du Centre National d'Études Spatiales. Et donc nous venons d'entendre l'atterrissage sur Mars hier à 20h54 précisément,
oui,
heure de Paris, de la sonde InSight. Et vous avez assisté en direct à ce moment. Vous étiez où ?
J'étais à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On n'a pas les chiffres, mais il y avait probablement plusieurs milliers de personnes. Et j'animais donc cet événement à partir de 19h jusqu'à l'atterrissage et même un peu plus.
Donc de quoi parle-t-on ? Déjà, InSight, c'est un acronyme anglais pour Interior Exploration Using Seismic Investigations. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors la mission InSight est une mission un peu particulière si on la compare à bientôt la cinquantaine de missions qui sont parties explorer Mars depuis les années 60. Puisque là, on n'est pas directement dans la problématique de l'eau, de la vie. On s'intéresse à quelque chose qui est très mal connu. C'est la troisième dimension. C'est l'intérieur.
L'intérieur, donc on va y venir. Mais auparavant, décrivez-nous un petit peu. Vous avez travaillé précisément sur une des parties embarquées dans InSight.
Voilà, donc sur InSight, il y a un sismomètre qui est le cœur de la mission. Et ce sismomètre est français. Il est sous la responsabilité scientifique de Philippe Le Nionnet et il a été conçu, réalisé par le CNES avec l'Institut de physique du globe de Paris et la Soderne pour la fabrication des sismomètres eux-mêmes. Donc c'est un consortium international avec les Britanniques, les Suisses, les Allemands et les Américains. Donc voilà, c'est un projet assez complexe. L'instrument est lui-même extrêmement compliqué.
Mais le cœur, c'est le cœur vraiment pour l'étude sismique, hein, les vibrations de la planète Mars. Ça, c'est français, donc on
voilà,
peut quand même le souligner.
C'est assez étonnant d'avoir l'instrument principal d'une mission américaine. Ça, c'est du jamais vu. Et pourquoi on en est arrivé là ? D'abord parce qu'on avait un sismomètre qui était excellent. Donc les Américains ont très vite compris qu'en prenant nos sismomètres, ils faisaient des économies et en plus ils avaient un instrument de très bonne qualité. Et or, les budgets de ces petites missions Discovery, telles qu'InSight, sont très contraints.
Mais revenons un petit peu sur cet atterrissage sur Mars. On peut dire atterrissage sur Mars ou est-ce qu'on doit
non,
dire
non, on
à
dit
Mars,
atterrissage.
Atterrissage.
Non, on atterrit.
Non, atterrissage.
On allunit mais on atterrit.
Et alors, vous avez ressenti, vous, quelle émotion précisément ? Racontez-nous cela.
L'émotion est très forte parce qu'on vit ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur. C'est l'instant entre le moment où la sonde touche le sommet de l'atmosphère et le moment où elle va se poser. Ça dure un peu moins de 7 minutes. Or, le temps que met le signal à arriver sur Terre est de 8 minutes. Ça veut dire qu'au moment où on sait, on reçoit un signal qui nous dit la sonde a touché l'atmosphère, en fait, elle est déjà posée, en réalité.
Mais si ça foire, vous ne le saurez que 7 minutes, 8 minutes plus tard.
Donc, on ne peut rien faire.
Mais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aux commandes, qui pilote cette sonde?
Pas du tout.
Comment ça se passe?
Pas du tout. Personne ne pilote. D'ailleurs, tous les opérateurs qui sont devant des écrans au Jet Propulsion Laboratory ne font que regarder les écrans.
Tout est automatisé.
Tout est absolument automatisé.
Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, on ne peut rien faire?
Rien du tout.
Rien du tout. On
donc
regarde.
Il faut tout prévoir à l'avance.
Et vous, vous avez eu peur aussi, alors vous
on
avez
a toujours
tremblé.
Très peur. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on s'est posé 8 fois sur Mars. Seulement.
Oui, on va y revenir un petit peu sur ces différentes missions.
Et les échecs sont extrêmement fréquents. Il y a une majorité d'échecs dans les missions martiennes. C'est un fait. Et donc ça passe ou ça casse.
Et la nuit d'avant, vous avez bien dormi, vous?
Moi, je dors plutôt bien.
Bon. Alors, justement, parlons de ces difficultés. Alors, puisqu'il y a beaucoup, il y a eu déjà d'autres missions sur Mars, donc on pourrait croire que c'est une routine. Et finalement, non, c'est toujours un exploit à chaque fois.
Alors, pourquoi c'est difficile? Parce que Mars a une atmosphère, mais cette atmosphère n'est pas assez épaisse pour nous freiner de façon simple. Je pense par exemple à Huygens qui s'est posé sur Titan. Huygens avait un bouclier thermique, on a ouvert un parachute et ensuite on s'est laissé tomber jusqu'au sol. Donc c'était facile.
Mais qu'est-ce qui est difficile? La température aussi
La pression est très difficile parce qu'on a d'abord un bouclier thermique, puis un parachute, mais ça ne suffit pas. À partir du moment où on a ouvert le parachute, on est déjà à 10 km d'altitude, c'est très bas. Et derrière, il faut allumer des rétrofusées et avoir un système piloté automatiquement avec un calculateur à bord, un altimètre, pour ensuite se poser en douceur de façon totalement automatique. Et en plus, en ayant tourné la sonde de façon que la zone où on aura notre sismomètre sera au sud, c'est-à-dire au soleil.
Exactement. Mais vous disiez, il y a eu combien d'envois de sondes sur Mars et combien qui ont échoué?
Alors, je crois que l'année prochaine, on atteindra le chiffre rond de 50, avec beaucoup d'échecs, probablement 60% d'échecs. Et la raison, c'est que Mars était très attractive au tout début de l'histoire du spatial, c'est-à-dire dans les années 60, à une époque où tout ça n'était pas maîtrisé. Donc les Soviétiques, les Américains envoyaient des sondes qui partaient un peu n'importe comment, qui se perdaient dans l'espace. Donc il y avait beaucoup d'échecs comme
mais
ça.
Mais est-ce qu'on tire des leçons de ces échecs à
toujours,
chaque fois?
Toujours, toujours, toujours. Un échec, c'est très important. D'ailleurs, il y a eu un fait important lors de l'atterrissage de Mars Polar Lander, c'était en 99, qui était le même atterrisseur qu'InSight. Eh bien, on s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup d'informations pendant la descente, et vous venez de mettre le doigt sur la chose importante, il faut tirer des leçons. Et pour tirer des leçons, il faut savoir. Donc aujourd'hui, toutes les sondes américaines qui se posent sur Mars émettent des données pendant toute la phase de descente. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir jusqu'à tel point ça s'est bien passé, l'ouverture du parachute, ça s'est bien passé, le problème il était après. Voilà, on peut comprendre où a été le problème. Parce que si on ne comprend pas, c'est un désastre.
L'un de vos collègues, le sismologue Philippe Lognonier de l'Institut de physique du globe, disait que plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
Un peu comme les Shadok.
Oui.
mais oui, sachant qu'on utilisait l'atterrisseur de 2008 qui s'appelait Phoenix, donc il avait bien fonctionné en 2008, donc on était relativement confiants.
Mais parlons un petit peu du voyage, puisque cette sonde est partie au mois de mai, le 5 mai 2018 précisément, donc elle a voyagé 6 mois, il faut 6 mois pour aller sur Mars.
Ça c'est à peu près incontournable. Les trajectoires martiennes rapides sont à 6-7 mois et on a des trajectoires à 11 mois.
On ne peut pas aller beaucoup plus vite dans l'espace.
C'est extrêmement compliqué d'aller beaucoup plus vite. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais vous avez des effets boule de neige parce que plus vous allez vite, plus il va falloir freiner à l'arrivée.
Donc c'est quand même 485 millions de kilomètres la distance qui nous sépare de Mars.
Parce qu'on doit tourner autour du Soleil. Donc les gens qui disent Mars est à 56 millions, il n'y a qu'à y aller, on fait 56. Pas du tout. On tourne autour du Soleil et à la finale, on fait presque 500 millions de kilomètres.
Mais pourquoi il faut tourner autour du Soleil?
Parce que le seul moyen d'avoir un rendez-vous avec une planète, c'est d'arriver sur une trajectoire tangente. C'est-à-dire que votre trajectoire doit être tangente à l'ellipse de Mars à l'arrivée.
On n'y va pas en ligne droite.
Vous ne pouvez pas arriver avec une trajectoire perpendiculaire, ça ne marche pas.
On rentre dedans, on s'écrase.
Les vitesses relatives sont effroyablement importantes et donc vous ne vous arrêtez pas.
On ne s'arrête pas. Juste un petit mot sur la description de la station. Une largeur de 6 mètres, un poids de 358 kilos. Donc c'est une station qui va rester posée, munie d'un bras robotique et tout sera également automatisé. On ne la pilote pas de la Terre.
Ah si, on pilote tout après.
Après on pilote tout.
Après on pilote
Mais
tout.
Pourquoi on ne peut pas piloter l'atterrissage puisqu'on peut quand même piloter tout ensuite?
Parce qu'on a le temps. Alors que l'atterrissage, on n'a pas le temps.
Ah, ça va trop vite en fait.
8 minutes pour que le signal vienne à la Terre, 8 minutes pour envoyer une télécommande, 8 et 8, 16. Donc il y a un quart d'heure de délai entre l'info et la commande.
Eh, c'est une histoire de temps. Pourquoi une station géophysique sur Mars? Vous écoutez autour de la question. Camille, Mars is not fun.
Go to the beach, not in the water. You can't open the window. There's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything is pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. It's like a tragedy, you're grounding on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun.
Autour de la question, nous sommes avec l'astrophysicien Francis Roca pour parler de la sonde InSight qui s'est posée sur Mars hier. Donc Francis Roca, maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer pour cette sonde?
Alors, depuis hier, on est au sol. 5 heures après, le temps que la poussière retombe physiquement, parce que les rétrofusées, ça soulève de la poussière, on a déployé les panneaux solaires. Qui font chacun 2 mètres de diamètre. Vous avez dit que la sonde faisait 6 mètres. En fait, c'est 2 rondes de 2 mètres avec des panneaux. Et la sonde elle-même, la partie en dur, je dirais, c'est 2 mètres à peu près. Donc 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Et parfaitement déployée. On a de l'énergie. On peut tenir ad vitam aeternam, à la limite.
Elle est faite pour rester indéfiniment, cette sonde?
Elle peut... Si tout va bien, vous savez, Opportunity, ça fait combien? Ça fait 15 ans que ça dure. Donc, parfois, ça dure
elle
très longtemps.
Elle tire toute son énergie du soleil.
Du soleil. Alors, ceci dit, Opportunity ne répond plus. Hein, donc, on se demande s'il n'est pas mort.
Et donc, son travail, précisément, on va y venir, hein, mais son travail va démarrer quand exactement? Son travail d'étude?
Demain, directement. Demain, on commence à déployer la grue, c'est-à-dire le bras manipulateur. C'est la première fois qu'on a un bras manipulateur comme ça sur une sonde. Et ce bras, il a une caméra, donc il va nous faire des belles photos, un beau selfie, vous verrez des belles images, pas de problème. Un paysage, on aura... Alors, vous inquiétez pas, le paysage est extrêmement ennuyeux.
Oui, on le connaît déjà un petit peu. En fait, voilà. Mars, c'est
mais
quoi
c'est
concrètement
étudié pour. On a choisi un paysage plat comme la Beauce. C'est oui. Fait pour. Parce que on s'intéresse pas au relief dans cette mission.
Mais juste un mot sur Mars. Mars, c'est un désert glacé. Il fait quelle température?
0 le jour, -100 la nuit. Tous les jours que Dieu fait, comme on dit.
Il y a Donc, de la poussière, du vent.
C'est très poussiéreux. Dès que le vent se lève, la poussière monte dans, et puis ça fait des tempêtes de poussière. Il y en a eu une cet été, souvenez-vous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Opportunity ne répond plus, parce qu'il a été noyé dans la poussière. Et si la poussière opacifie le soleil, et s'il n'y a pas de photons sur les panneaux solaires, Opportunity n'avait plus d'énergie pour travailler.
Et faites-nous un petit peu le point par rapport à toutes ces autres sondes qui ont été posées sur Mars, notamment Curiosity. La particularité d'InSight, ça sera surtout d'étudier le sol, finalement.
Non, le sous-sol.
Le sous-sol, carrément.
Le sous-sol. Carrément. Absolument. C'est la première fois qu'on va étudier le sous-sol en grande profondeur, puisque jusqu'à maintenant, toutes les sondes qui ont étudié Mars se sont intéressées à la surface, un tout petit peu. Vous savez, on a creusé 10 cm sur Mars aujourd'hui, pas plus. On n'a jamais pu faire plus. Et on a étudié l'atmosphère, on a étudié l'environnement, mais le sous-sol est totalement inconnu. Et pour étudier le sous-sol, comme sur Terre, en fait, on est dans la situation de ce qu'était la Terre dans la connaissance de son intérieur il y a un siècle. Donc, les débuts de la sismologie, c'était il y a un siècle. Et aujourd'hui, on va tout d'un coup découvrir l'intérieur de Mars grâce à InSight.
On connaît quand même l'atmosphère, on connaît la surface assez bien de Mars.
On a cartographié la surface en globalité, à des résolutions de l'ordre de la centaine de mètres. Vous savez, on a des images maintenant de Mars à 25 cm par pixel. C'est absolument incroyable. Il faut une très très grosse caméra pour faire ça. C'est-à-dire qu'on arrive à photographier les rovers au sol.
J'ai entendu dire que on connaissait mieux finalement la cartographie de Mars que celle de la Terre. Est-ce que c'est exact ?
Oh, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est sûr qu'on connaît mieux la cartographie de Mars de n'importe quelle autre planète, y compris la Lune. Et d'abord parce qu'on l'a cartographiée plusieurs fois et qu'on a maintenant des images qui nous font des
parce qu'il n'y a pas de végétation, alors que sur Terre, il y a de la végétation qui parfois masque évidemment
le sol. Absolument. Après, on a fait une grande chose, notamment c'est un instrument français, on a cartographié en utilisant l'infrarouge, donc pour avoir la minéralogie du sol. Parce qu'une image ne vous dit pas ce que vous voyez. Vous voyez un relief. Mais de quoi est fait ce relief, on ne sait pas. Pour arriver à avoir la composition du sol, qui est extrêmement importante sur Mars, on a utilisé la spectro-imagerie infrarouge, c'est-à-dire le domaine où le sol absorbe les vibrations en infrarouge. On l'a détecté il y a 2005, c'est-à-dire un peu plus de 13 ans, on a détecté des sulfates hydratés et des argiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des roches volcaniques qui ont été altérées par l'eau. Et le fait que l'eau altère les roches, ça, c'est une preuve que l'eau a persisté longtemps. Or, vous savez que pour que la vie apparaisse, il faut peut-être 100 millions d'années.
Oui, c'est toujours
et la durée avec l'eau liquide
De la vie. Oui.
C'est aujourd'hui le chaînon manquant. On sait qu'il y a eu d'eau sur Mars, il y en a eu beaucoup, mais on ne sait pas dire pendant combien de temps.
Mais alors justement, donc venons-en précisément à cet objectif de la sonde InSight, c'est l'étude du sous-sol. Ce sous-sol qu'on ne connaît pas du tout, donc la sonde va être équipée d'un sismomètre, ce fameux sismomètre que vous avez fabriqué, alors de CNES, le Centre National d'Études Spatiales, l'Institut de Physique du Globe de Paris notamment. Donc qu'est-ce qu'il va faire exactement? Il va être équipé de capteurs pour percevoir toutes ces vibrations?
Un sismomètre, c'est un engin qui est sensible aux vibrations. Si je tape sur cette table, le sismomètre vibre et on a un signal. Voilà, c'est ça un sismomètre. Après, on en prend trois pour avoir les trois dimensions de l'espace. Et dans ces trois directions, on peut savoir d'où vient le signal. Dans quelle direction vient le signal? Et si en plus on est assez malin, on arrive à localiser les séismes. Et les séismes créent des ondes qui se propagent en surface, mais aussi à l'intérieur. Ces ondes, excusez-moi, on va finalement cartographier l'intérieur. Et cartographier l'intérieur, ça va nous dire quelle est la taille du noyau, quelle est l'épaisseur de la croûte, est-ce que le noyau est liquide ou solide. C'est vraiment les données fondamentales qu'on veut obtenir avec ces sismomètres.
Ces séismes, c'est exactement la même chose que sur Terre, ce qu'on appelle des tremblements de terre.
Exactement. Mais on a une autre source de signaux, ce sont les impacts de météorites. puisque l'atmosphère de Mars est très ténue, et la pression est très faible. Les météorites se détruisent assez peu quand elles pénètrent dans l'atmosphère de Mars, donc les impacts sont beaucoup plus fréquents que sur Terre. Et un impact, ça crée une secousse, et cette secousse est détectée par le séisme. Et si en plus on a cartographié, ce qu'on a fait, l'environnement d'InSight dans un rayon de 1000 km, si on sait que le séisme est à peu près vers le nord, on va regarder à nouveau et repérer le nouveau cratère. Et donc on aura exactement la localisation du séisme. Et après, quand vous avez la localisation, vous pouvez étudier la propagation des ondes.
Mais sur Terre, on dit que les séismes sont produits par des plaques tectoniques qui se rencontrent. Est-ce qu'on a la même chose sur Mars ?
Eh bien non. La Terre est la seule planète à avoir une tectonique des plaques. Il n'y a pas de tectonique des plaques, ni sur Vénus, ni sur Mercure, ni sur la Lune, ni sur Mars. D'ailleurs, ça soulève des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. Pourquoi nous sommes les seuls à avoir une tectonique des plaques ? Ça serait un peu trop long de faire une digression là-dessus, mais néanmoins, Mars peut craquer. Craquer parce qu'elle se refroidit. Et en se refroidissant, elle se contracte et les contractions créent des petits craquements. On n'aura pas de gros séisme sur Mars.
Oui, c'est parce qu'elle était très chaude, donc un petit peu comme n'importe quel objet qui se refroidit, qui se contracte et qui fait des fissures, ce genre de choses.
Ça fait des petits craquements. Il y aura les gros séismes, il n'y en aura pas sur Mars, ça on en est certain. On n'aura que des petits séismes. Alors si vous connaissez l'échelle de Richter, un gros séisme, c'est un séisme de magnitude 9. Ça vous détruit à peu près toutes les maisons. Là, on espère des magnitudes 4. C'est vraiment extrêmement faible. C'est très peu sensible pour l'homme. Mais notre instrument est capable de les détecter. Et on aura les impacts de météorites. Donc on devrait avoir des sources sismiques assez fréquentes.
Mais même en se posant en un seul endroit de Mars, vous pouvez détecter des séismes qui se produisent sur toute la planète ?
Oui, si le séisme est à un certain seuil d'intensité, il est tout petit, on ne pourra pas dans la globalité, mais s'il est un peu intense, les calculs montrent qu'on est capable de le détecter n'importe où sur la planète.
Avec vos trois capteurs, finalement, il faut donc trois capteurs pour arriver à détecter l'orientation, mais ces trois capteurs sont posés au même endroit.
Voilà, on a trois capteurs dans une sphère qui fait 25 cm de diamètre. Ils sont emboîtés les uns dans les autres, dans des orientations propres à chacun, pour voir les trois dimensions de l'espace. Mais vous avez raison, d'habitude, tout le monde sait que pour localiser un séisme, il faut un réseau sismique. Il faut trois sismos éparpillés de 100, 1000 km. Et vous faites une triangulation pour avoir la localisation. Ici, on ne va pas le faire, mais néanmoins, on a la prétention d'arriver à localiser moins bien. Mais on pourra localiser néanmoins le séisme par des mesures un peu subtiles de temps d'arrivée de signaux. Si un signal nous met un certain temps, on pourra en déduire que, compte tenu de sa vitesse, eh bien, il s'est situé à telle distance.
L'idéal serait de se déplacer, d'aller mettre une autre station un peu plus loin et une troisième encore un peu plus loin.
Voilà, ça sera peut-être InSight 2.0, c'est-à-dire la prochaine mission, un réseau sismique avec trois stations.
Écoutons cette question que vous pose la journaliste Cécile Lestienne qui s'intéresse à la profondeur de forage.
Si j'ai bien compris, un des buts de la mission InSight sera de forer la croûte de Mars, voilà, jusqu'à, je crois bien me souvenir, 5 mètres. Pourquoi 5 mètres ? Pourquoi cette limite de 5 mètres ? Est-ce que c'est une limite technique ou est-ce que c'est un autre type de limite ?
Alors, Francis Rocard.
Alors, le terme de forage est peut-être pas le bon. En fait, il y aura trois instruments sur cette sonde, plus une station météo auxiliaire. Donc, on a parlé du sismomètre. Le deuxième instrument, on l'appelle HP-Cube, il est allemand, et c'est un instrument que les géophysiciens connaissent bien sur Terre, qui mesure le flux de chaleur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En gros, sur Terre, quand vous allez dans une grotte, on vous dit, été comme hiver, il fait 12 degrés. Et cette température, qui est constante, 365 jours par an, vient du fait que la Terre réchauffe la grotte à l'intérieur. Ce n'est plus le Soleil qui réchauffe.
Et la température de la Terre, elle est constante.
Voilà. Et en fait, cette température, c'est un refroidissement de la Terre. La chaleur se propageant jusqu'à la surface, et à ce moment-là, elle s'évacue.
Il y a un magma très chaud à l'intérieur.
Voilà. Donc. Et donc, sur Mars, c'est la même chose. En fait, si on avait une grotte sur Mars...
Oui, mais vous dites,
sur
Mars, on ne sait pas s'il y a un magma à l'intérieur encore.
Je vais y venir. En gros, on veut mesurer la température des grottes sur Mars. C'est la même idée. Mais Mars a été chaude. tous les objets. Pourquoi une planète est ronde? Si une planète est ronde, c'est qu'à un moment, elle a été fluide. Donc, son magma était fondu.
Mais c'est une goutte.
Sinon, c'est pas rond.
Une goutte,
c'est
de matière.
Sinon, c'est pas rond. Donc, tout ce qui est rond dans l'espace, il faut vous dire qu'à un moment, c'est passé par la phase fluide. Fluide, c'est-à-dire presque liquide. Ça, c'est... Et la sphéricité vient de la gravité. Mais si vous prenez Churyumov-Gerasimenko qui fait 4 km, c'est pas rond du tout.
C'est quoi ça?
C'est la comète.
La comète
que Rosetta a visitée en 2014. Un objet de 4 km n'est jamais passé par la phase fluide, donc il a une forme totalement patatoïdale. Ryugu est une forme patatoïdale, c'est un astéroïde qu'on est en train de visiter avec une sonde.
Donc alors Mars a été liquide, a été chaud.
Très chaud à l'intérieur, il y avait même un champ magnétique.
Est en train de se refroidir.
Comme la Terre, depuis 4,5 milliards d'années, tout se refroidit. La source de chaleur de départ, c'était à la fois le fait que la façon dont la Terre ou le Mars s'est formé a accumulé de la chaleur.
Oui, mais pour en revenir à la question de Cécile Estienne,
alors pourquoi 5 mètres?
Alors vous dites pas forêt, mais alors le terme exact serait
en fait,
quoi alors?
On utilise, on veut mesurer le flux de chaleur. Alors comment on fait ça? En fait, c'est assez compliqué. D'ailleurs, sur Terre, ces mesures étaient contestées pendant longtemps. Le principe, c'est de mesurer de la température, mais vous ne pouvez pas le faire en surface, parce que votre température est dictée uniquement par le Soleil. Donc, il faut aller à l'intérieur. Et on va utiliser une espèce de taupe. C'est un tube qui fait 40 cm de longueur. À l'intérieur, vous avez un système à percussion, comme dans les perceuses à percussion de bricolage.
Et c'est le robot qui va actionner cette taupe.
Dans la môle, vous avez un petit moteur qui tourne, et un petit ressort, et boum, ça tape à l'intérieur, et ça fait rentrer la môle. On va descendre à 50 cm, on va mesurer la température. On va descendre à 1 mètre, on mesure la température. Et on va aller comme ça jusqu'à 5 mètres.
On pourra descendre encore plus profond?
Non, parce que je crois que le câble prévu n'est pas 5 mètres.
Oui, c'est donc une question technique aussi.
C'est une question technique, et les calculs montrent qu'à 5 mètres, on est... pratiquement plus influencé par la surface, donc on commence à pouvoir mesurer réellement le flux de chaleur. Voilà pourquoi c'est 5 mètres.
D'accord.
Mais on ne fera pas de mesures chimiques, hein, alors que les forages souvent sont associés à des prélèvements et à des mesures de composition. Ce n'est pas ça du tout ici.
Ouais, et il n'y a pas de pétrole.
C'est que des mesures de température.
Il n'y a pas de pétrole sur Mars.
Non, je ne pense pas.
Non, mais il pourrait quand même y en avoir.
Non. C'est très peu probable, parce que pour avoir du pétrole, il a fallu qu'il y ait énormément de matière organique qui se décompose pour former du pétrole. Vous savez qu'aujourd'hui, on cherche les molécules organiques sur Mars, on en trouve très très peu.
Ouais.
Donc, tant qu'on en a très très peu, je ne vais pas vous dire qu'il y avait du pétrole sur
Mars. Mais il vaut peut-être mieux pas qu'il y ait du pétrole sur Mars, sinon il y aurait des enjeux géopolitiques et stratégiques très...
Oui,
quoi
que je n'imagine pas, sur un plan commercial, que ça soit rentable d'aller chercher le pétrole martien. C'est trop cher. Il y a d'autres projets qui consisteraient à exploiter des ressources ailleurs que sur Terre, mais ce n'est pas le pétrole
sur
martien.
Sur la Lune plutôt, je crois.
Sur les astéroïdes surtout.
Ah, il pourrait y avoir du pétrole sur les astéroïdes?
Non, des métaux rares.
Des métaux rares.
C'est plutôt les métaux rares qui sont recherchés. Titane. Alors après, vous avez ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, par définition, ils sont rares. Mais ils sont indispensables à faire fonctionner une éolienne. Dans votre smartphone, il y a plein de terres rares. Et si l'industrie des nouvelles technologies n'ont plus de terres rares, c'est une catastrophe mondiale. Donc il y a une dépendance industrielle sur les terres rares. Et des gens pensent que d'ici 10 ou 20 ans, il va y avoir des pénuries de terres rares. Et qu'à ce moment-là, les prix vont tellement augmenter que... exploiter les terres rares sur les astéroïdes, ça pourrait devenir rentable.
Mais sur Mars ou sur la Lune, il pourrait y avoir des terres rares?
Pas vraiment. Non, c'est pas tellement là qu'on va les chercher. C'est plutôt sur les astéroïdes.
Oui, et même sur Mars, il n'y aurait pas d'or ou ce genre de matériaux précieux?
Non, il y a des
cailloux.
C'est du basalte. Vous savez, c'est des roches volcaniques.
Donc c'est de la recherche fondamentale pour comprendre la formation de l'univers. C'est pas
la formation de la planète et la problématique de la vie qui est propre à Mars. Aussi.
Autour de la question pourquoi une station géophysique sur Mars après l'atterrissage hier de la sonde InSight. Écoutons Space Traveling de Type O.
The creator has no intentions on limiting man's effort to conquer space. Therefore it's a race.
Set the course.
You gotta understand me to understand me though.
About to take off.
You know?
Take a journey through the stars, galaxies, quasars, dust. Adjust to the frequencies our radars touch. Just create chaos from crayons, thrust. What, this imagery is us. Journey with me through the stars, galaxies, quasars, dust. Adjust to the frequencies our radars touch. Just create chaos from crayons, thrust. What, this imagery is us.
Hey yo, my mind is space traveling. Imagining me traveling through stars, brain raveling. Scattering while scavenging for Mars. Star Wars, intergalactical battlers from far. Shatter squads and teleport from Saturn to Mars while I'm practicing alienated witchcraft with acronyms. Creating pyramids with extraterrestrial patterns. So you could Babylon about the cats that's wacky rattled on the shatter bone from Seattle back up to Saturn. Just so the facts are known, if that's your man and if you rolling with him, I break him down to subatomics with this coalition known for roasting victims. So I left my galaxy cause I couldn't find a rapper bad as me up in my solar system with the flowing rhythm. When I choose a verse, you think I telepathically aligned every planet up in the universe. I'ma do it worse in 2012, December 21st. I can either control the string theory and can prove it work. My crew is berserk and tech is bad to the flim. No need to act and pretend once the rapture begins. I just took a trip to Saturn again, I battled the wind. Shoot with the pad and the pen, I'm good to shatter some chairs. No matter what planet I'm in, I'm smashing it like a comet do. I rip a lot of crews, I rock with groove until my tonsils bruise. So me not stopping you is impossible. I spit toxic fuel that'll turn your water molecules volatile back to the
stars, galaxies, quasars, dust. Adjust to the frequencies our radars touch. Just create chaos from crayons, thrust. What, this imagery is us. Journey with me through the stars, galaxies, quasars, dust. Adjust to the frequencies our radars touch. Just create chaos from crayons, thrust. What, this imagery is us.
Cleverly giant raps heavenly, steadily, inevitably heavenly. Seven measures of deadly venoms connect phonetically. They'll never be heads ahead of me measurably. Hex is leisurely jeopardizing your life chemically. Word of mom is on. Stellar vagabond, traveling stars, handling odds. Babble, get your abdomen scarred. Now tell me who can step to the supernatural human. I can hop in your head and be you better than you can. I've been hovering through space ever since records and tapes. Was bumping the clubs, young and cover your face. Cause when I spray these verses, nothing is safe. Moving so fast, I see vast galaxies pass. When I'm running in place to surpass my intellectual wrath. When I bomb shits like trying to measure Earth's land mass with a yardstick, you niggas lost it. I'll bring it back though when pack shows, attack foes and cast those with back flows and black holes.
Vous écoutez Autour de la question, nous sommes avec l'astrophysicien Francis Rocard et nous parlons de la sonde InSight qui s'est posée hier sur Mars, une sonde tout à fait exceptionnelle, la première station géophysique qui va étudier l'activité sismique d'une autre planète, c'est-à-dire ces tremblements de terre. Francis Rocard, on va s'attendre à combien de tremblements de terre à peu près? D'abord, il faut qu'il y en ait régulièrement quand même pour que vous ayez du travail.
C'est la grande inconnue. Comme personne n'a jamais mesuré les tremblements de Mars, en fait, on ne sait pas très bien combien il y en aura. Évidemment, on a fait des modèles. Mais comme ça arrive souvent, les modèles sont faux. Mais si on a une quinzaine de séismes par an, c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est-à-dire à peu près un par mois.
Un par mois quand même. Donc oui, puisque chaque séisme va vous donner beaucoup de travail, il faut donc étudier. Ça va se faire où exactement? Au CNES, à l'Institut de physique du globe? C'est une collaboration internationale?
C'est international. Le CNES est chargé d'opérer CEIS, le sismo. Donc nous envoyons les télécommandes au Jet Propulsion Laboratory qui les envoie vers Mars. Mais c'est nous qui sommes en charge.
Jet Laboratory, c'est-à-dire?
C'est le laboratoire américain qui a fabriqué la sonde InSight. Et donc on est opérateur du sismomètre. Encore une fois, un sismomètre, on le laisse tranquille. Il n'y a pas d'opération compliquée. Simplement, ce qu'on va faire toutes les semaines, on va récupérer toutes les données enregistrées en basse définition. Et on va essayer de voir si dans ces données, on a un pic, c'est-à-dire on a un séisme. Et si on repère qu'il se passe quelque chose pendant une période donnée, le lendemain, on dit à la sonde, ben, de temps à temps, tu nous envoies les données en haute définition, et ça, on va pouvoir les analyser.
Mais comment ces séismes, l'étude de ces séismes, permet de connaître la constitution de la planète Mars? Puisque ce qui vous intéresse, c'est pas uniquement savoir s'il y a tant de séismes, c'est vraiment en déduire d'autres informations.
Oui.
De quelle nature est fait son sous-sol, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la formation de la planète?
Alors, en fait, il y a deux aspects qui vont être mesurés. C'est d'une part la géométrie, c'est-à-dire la taille du noyau, L'épaisseur de la croûte, tout ça, c'est dimensionnel.
Et si une planète donc est formée d'un noyau et d'une croûte.
D'un noyau entouré par un épais manteau.
C'est quoi la différence exactement entre le noyau et la croûte?
Alors, le noyau, c'est... Vous savez, quand une planète devient ronde, ça veut dire qu'elle se différencie. Différencie, ça veut dire qu'elle devient fluide. Et dans un fluide, qu'est-ce qui se passe? Le lourd tombe au fond. Et le lourd, ce sont les métaux. Donc le noyau est constitué de ce qui est lourd, fer et nickel, essentiellement. On pense que le noyau de la Terre, c'est 80% de fer, 20% de nickel et un pouillème de cobalt. Et puis vous avez toute la planète, ça a été démontré, et une espèce de champ de lave fluide global au début.
Champ de lave puisque
à 2000 degrés.
Il y avait des volcans avant.
Non, champ de lave, c'est un gigantesque volcan si vous voulez. Ah. La planète est totalement fondue. Mais comme elle se refroidit...
Mais il y a encore des volcans en activité.
Non, pas en activité. Il y a eu des énormes volcans sur Mars. Donc c'est totalement fondu. Et puis une planète se refroidit par sa surface. Donc qu'est-ce qui va se produire? Vous allez avoir une croûte solide qui va se former parce que c'est là que c'est le plus froid. C'est la surface. Et c'est ça qu'on définit comme étant la croûte. À l'intérieur, vous avez le fer et nickel, c'est le noyau. Et typiquement, la croûte, c'est 30 km. Le noyau, c'est peut-être, je ne sais plus très bien les chiffres, 500 ou 1000 km. Et entre les deux, vous avez une énorme épaisseur qui est tout le reste, qu'on appelle le manteau. C'est du magma qui est encore fluide. Et c'est ce magma qui rentre en convection qui crée l'activité volcanique. Et donc, on a sur Mars des volcans qui font 20 km de haut. Olympus Mons, à sa base, à la taille de la France.
Des volcans donc éteints aujourd'hui, mais qui...
Éteints aujourd'hui, mais dont on pense qu'il y a des éruptions qui sont très très jeunes. Un million d'années, c'est très très jeune. Il y a même des gens qui se disent on pourrait avoir des résidus d'activité volcanique. C'est un peu comme les volcans d'Auvergne. Ils sont éteints, mais les sismologues nous disent, attendez, dans un million d'années, il y en a peut-être un qui va se réveiller.
Ah, ils peuvent se réveiller malgré tout.
Ils sont juste en sommeil.
En sommeil, en sommeil. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de Mars? Écoutons cet extrait d'une émission de France 3.
Un grand lac souterrain de 20 km de large repéré sous la surface de Mars. C'est la première étendue d'eau sous forme liquide de cette taille détectée sur la planète rouge.
Nous avons observé qu'il y avait des signaux clairs et brillants au pôle sud. Et cela ne peut pas provenir de matière sèche. Nous avons donc conclu que la seule explication possible, c'est qu'il y a de l'eau sous forme liquide.
Donc de l'eau sous forme liquide, c'est aussi quelque chose que vous allez chercher, vous?
Alors, cette histoire d'eau liquide sur Mars, vous savez, l'instrument Mars 6 sur Mars Express, lancé en 2003, il y a 15 ans, était dédié à cette recherche. Pendant 15 ans, il n'a rien trouvé. Et puis là, par un petit miracle, et de la chance probablement, dans une zone qui est près du pôle Sud, pas tout à fait au pôle Sud, à côté, à 300-400 km à côté, eh bien, ils ont repéré un écho un peu particulier, et bingo, ils ont trouvé de l'eau liquide à quelques kilomètres de profondeur. Mais ça fait 15 ans qu'ils cherchent.
Mais ça a été vraiment confirmé, cette présence d'un lac souterrain, ou ça ne reste qu'une hypothèse?
C'est l'interprétation d'un signal radar, et on n'a pas mieux, et on n'aura jamais mieux. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit... Le coefficient de réflexion nous montre que c'est liquide.
Oui,
voilà.
Parce que l'onde part, donc vous envoyez une onde, l'onde revient, et
en
c'est
gros,
ça qui va vous donner...
On émet une onde, si on passe à travers la glace, ça pénètre très bien. Si on tape dans l'eau liquide, c'est comme un miroir. L'onde se réfléchit. Et là, on a un fort taux de réflexion, donc on pense qu'on a effectivement du liquide.
Mais vous, avec InSight, vous allez aussi envoyer des ondes ou vous allez seulement récupérer les ondes de la planète?
On ne fait que récupérer les ondes.
Donc c'est
un autre
projet.
Voilà, c'est un autre projet.
Donc votre but n'est pas de chercher de l'eau particulièrement?
Indirectement, on va s'intéresser à l'eau, mais c'est très indirect. Encore une fois, les données importantes concernent les grands aspects géométriques. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la question de savoir si le noyau est liquide ou solide, c'est une question qui est très ouverte. Et une onde, comme je viens de le dire tout à l'heure, si le noyau est liquide, l'onde ne pénètre pas à travers ce noyau, alors que si le noyau est solide, l'onde pénètre à travers. Donc, en analysant finement le trajet de ces ondes sismiques, on pourra en déduire si le noyau est liquide ou solide.
Oui, puisque un séisme, donc un tremblement de terre, ne vient pas forcément uniquement en ligne droite à partir de l'endroit où il se produit jusqu'à la sonde, mais il peut faire le tour de la planète aussi également.
Alors, les ondes se propagent, je dirais, comme des cercles concentriques. Vous jetez un caillou dans l'eau, voilà, vous avez des ondes qui se propagent comme ça. Et alors, certaines se propagent effectivement uniquement à travers la surface, et on va les capter assez facilement. D'autres passent par l'intérieur. Et donc, le trajet intérieur de ces ondes, qui va être assez complexe, c'est pour ça qu'il nous faudra plusieurs séismes pour arriver à avoir des faisceaux d'ondes multiples, nous permettra de remonter à la géométrie de l'intérieur.
Donc, vous étudiez les ondes dans tous les sens, aussi bien celles qui vous proviennent directement que celles qui vous proviennent après avoir fait le tour de la planète Mars.
Alors, exactement. C'est-à-dire que les ondes de surface, si on a un séisme suffisamment intense, on est supposé qu'il soit aux antipodes, donc il y a une onde de surface qui va faire un demi-tour de Mars. On va la capter, mais elle va continuer son petit bonhomme de chemin, et elle va refaire un tour. Et donc, on va encore la capter une deuxième fois. Et si on arrive à la capter après un demi-tour et un tour et demi, bingo, on est capable de mesurer la distance, parce qu'on a tous les paramètres pour la géométrie.
Mais qu'est-ce que l'étude du sous-sol martien va nous apprendre sur la formation de la planète Terre, puisqu'il y a beaucoup de similitudes entre Mars et la Terre?
Alors, il y a beaucoup de similitudes, il y a même des hypothèses très basiques qui consistent à dire que la Terre, Mars, Vénus, Mercure se sont constitués à partir du même matériau. Pourtant, ces quatre planètes telluriques sont complètement différentes aujourd'hui. On aimerait bien comprendre pourquoi. L'intérêt de par exemple, d'étudier l'intérieur de Mars, c'est qu'on va pouvoir faire un bilan global de la composition de Mars. C'est-à-dire ce que les géophysiciens appellent le rapport métal-silicate. Le métal, essentiellement, c'est la taille du noyau, le silicate, c'est tout le reste. Donc, si on a la taille du noyau, on a tout de suite le rapport métal-silicate, et ça veut dire la quantité de fer qu'il y a sur une planète. Et est-ce qu'on a la même quantité de fer sur Mars et la Terre? Je vous rappelle qu'il n'y a à peu près pas de fer sur la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune s'est formée d'un impact géant, et la Lune est constituée d'un matériau qui vient du manteau de la Terre, alors que le noyau de la Terre avec tout le fer était déjà constitué, et donc le fer était déjà parti.
Et la fameuse recherche de vie, puisque c'est quand même cela aussi qui nous préoccupe, nous citoyens, qui vous préoccupe, vous aussi scientifiques, cette fameuse recherche de traces de vie, est-ce que la sonde InSight pourra y contribuer également?
Pas du tout. C'est pas du tout son objectif, c'est un petit peu le pourquoi cette mission arrive un peu si tardivement, c'est qu'elle est très importante sur les fondamentaux de Mars, mais elle n'a rien à voir avec la détection de la vie. Donc finalement, elle était toujours un peu le poulie d'or jusqu'à maintenant de l'exploration martienne, mais dans un concours de circonstances favorables, finalement, on a pu la faire. Mais c'est fondamental parce que ça nous donne le bilan global de la composition de Mars.
On ne peut pas ne pas parler de Mars sans parler de ce fameux projet, l'envoi d'êtres humains sur Mars.
Bonsoir, il s'agit probablement du défi spatial à venir le plus fou pour l'humanité. Envoyer dans les prochaines années des femmes et des hommes sur la planète rouge et devenir une espèce interplanétaire. La quatrième planète du système solaire intéresse les astronomes à bien des égards. Mars et la Terre partagent en effet un passé qui présente de nombreuses similitudes.
Francis Rocca, alors ce fameux voyage d'êtres humains sur Mars, vous y croyez, vous y travaillez, vous pensez que c'est une utopie, un serpent de mer?
La question ne se pose pas exactement en ces termes. Moi, j'observe. Et j'observe la nation qui investit le plus dans le spatial et dans l'exploration, c'est-à-dire les États-Unis. Et j'observe qu'aux États-Unis, tant la NASA que la Maison-Blanche que le Congrès, il y a un consensus de ces trois entités de dire la nouvelle frontière pour les Américains, c'est l'homme sur Mars, au XXIe siècle. Donc ils se sont fixés cet objectif de façon... Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi on envoie l'homme sur Mars? Bah, la réponse pourrait prendre une heure, donc je ne vais pas vous prendre une heure, on n'aura pas le temps. Mais en gros, la réponse est compliquée. Et le bilan, c'est que c'est un petit peu la nouvelle frontière. Les Américains se doivent d'aller sur Mars quelque part pour se dire, sinon c'est les Chinois qui vont le faire avant nous. Et ça, c'est insupportable pour eux.
Mais sans prendre une heure, puisqu'il nous reste quand même quelques minutes, au cours de la guerre froide, on savait que, bon, évidemment, c'était une question de puissance politique entre l'URSS et les États-Unis. Et là, maintenant, ce que vous dites, donc c'est plus le cas avec l'URSS, hein, mais ce que vous dites, c'est finalement, c'est un petit peu la même chose, mais avec la Chine, une sorte de rivalité.
C'est un des arguments qui pousse le Congrès américain à, dans cette voie. C'est pas le seul, mais il y a aussi le fait que les États-Unis sont le seul pays au monde à consacrer la moitié de leur budget spatial civil aux vols habités. Donc si vous ne vous donnez pas un objectif à long terme ambitieux, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Combien il y a de licenciements? 10 000 personnes? Donc, il y a un vrai problème sur la poursuite des vols habités. Et donc ce consensus est devenu absolument naturel pour les Américains. C'est nous, on va faire le job, on va envoyer les hommes sur Mars. Mais la question, ce n'est pas pourquoi, c'est on y va.
Mais scientifiquement, par exemple, puisqu'on parlait depuis le début de l'émission de la sonde InSight, qui travaille très bien toute seule avec son bras automatisé que l'on commande depuis la Terre, on n'a pas besoin d'être humain. Est-ce que des hommes feraient d'autres choses que la machine ne fait pas toute seule ?
Encore une fois, l'homme sur Mars, c'est pas pour la science, hein. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pour vivre et pour habiter sur une planète. Alors, il va y avoir de l'exploration, un peu comme il y a des explorateurs qui ont traversé l'Atlantique avec des bateaux à voile. C'est à peu près du même niveau. Mais le rationnel, comme on dit, est assez mystérieux. Il vient... Voilà, c'est la nouvelle frontière, un petit peu comme ça l'était à l'époque des cow-boys.
Mais vous ne travaillez pas là-dessus, au CNES? Pas du tout. Hein. Vous regardez, vous observez les Américains?
Au CNES, évidemment, on regarde beaucoup. Moi, personnellement, je ne travaille pas sur les vols habités, mais au CNES, on s'interroge et puis on fait partie de l'Agence spatiale européenne, donc c'est l'Europe spatiale. Et évidemment, il y a des réflexions au niveau de l'Agence spatiale européenne, dont nous faisons partie, qui est de savoir si oui ou non on va être avec les Américains pour... Parce que vous savez, la première étape, curieusement, c'est une station spatiale en orbite lunaire. Vous allez me dire...
Oui, et quel rapport avec Mars ?
Le rapport, c'est que... C'est une étape qui va permettre de développer les véhicules très très complexes, très puissants, de transport.
Mais
par
concrètement,
exemple.
C'est quoi? C'est donc une station qui va rester en orbite autour de la Lune.
Plus petite que l'ISS, mais après il va falloir amener les modules avec des véhicules de transport qui n'existent pas.
Mais vous travaillez sur ce projet?
Pas du tout.
Pas du tout, non ça c'est les Américains.
Je travaille pas sur les vols habités, moi. Je travaille que sur les missions scientifiques. Mais j'observe, je vois, et comme je sais que vous me posez des questions sur les vols habités, je suis obligé d'être au courant de ce qui se passe. Mais c'est ça qui va se passer et ça va durer pendant les années 2020. Ça va démarrer en 2023, en 2027, vous allez avoir une station spatiale en orbite lunaire. Et après, on verra bien quelle sera l'étape suivante.
Et en guise de conclusion, pour en revenir à cette fameuse sonde InSight qui s'est posée hier, donc qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Qu'est-ce que vous allez suivre? Quel va être votre travail au jour le jour, concrètement?
Alors,
avec InSight?
Demain, on déploie la grue. Le bras qui va nous servir à mettre le sismo. Ensuite, à peu près vers Noël, je pense qu'on va poser le sismo au sol de Mars, parce qu'on a besoin d'être au sol pour avoir un bon contact sismique. On va lui rajouter un chapeau chinois qui est une protection thermique et contre le vent, parce que si le vent souffle sur notre sismo, ça va le faire vibrer. Et ensuite, on arrête tout. On ne fait plus rien. Vous savez, un sismo a besoin de tranquillité.
Donc
après, on ne touche à rien. Et on récupère les données tous les jours, régulièrement. Mais ensuite, il n'y a plus d'intervention.
Elle travaille toute seule et vous récupérez les signaux. Le bras ne bougera plus une fois que tout sera installé.
Bah, dès qu'il bouge, il perturbe le sismo.
Voilà.
Alors, donc, ça ne veut pas dire que le bras ne bougera pas.
Et il est prévu pour rester indéfiniment, a priori ?
2 ans, a priori. Et puis, 2 ans de plus, si tout va bien.
Eh bien, c'était très intéressant. Nous allons suivre les aventures de la sonde InSight régulièrement. Francis Rocard, merci. C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Portez-vous bien, merci de votre fidélité. Et dans quelques instants, les infos sur RFI.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.